Je vous propose trois lectures pour débuter notre réflexion de ce matin. La première se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. » Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Deuxième passage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 6. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Convertissez-vous, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau, une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et un dernier verset, toujours dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. « Moi je vous baptise dans l'eau, dit Jean, en signe d'un profond changement, mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Vous aurez sans doute compris à la lecture de ces trois textes que Jean le Baptiste est donc l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe, était celui qui devait venir pour ouvrir le chemin à Jésus. Pourtant, en y réfléchissant, à première vue du moins, on peut difficilement imaginer pire publicité que Jean-Baptiste. Vous parlez d'un ambassadeur. Alors je dis ambassadeur car il est celui qui doit, par son ministère justement, encourager ses frères et sœurs à aplanir les sentiers de celui qui vient après lui, autrement dit les aménager, en faisant de la place dans leur cœur pour celui qui vient. Car c'est bien dans les cœurs que se trouvent ces sentiers. Et c'est bien dans notre cœur que celui qui devait venir veut marcher. Et celui qui vient n'est rien de moins que le roi Messie, annoncé par les prophètes. Vous en connaissez beaucoup, vous, d'ambassadeurs dont l'habit est fait de poils de chameau et qui mangent des sauterelles. Quel genre de roi peut-il bien annoncer, sachant qu'un ambassadeur représente est l'image de celui qui l'a envoyé? En représentant le roi, il incarne le royaume, dont il est le héros, pas le héros. Hein. Il annonce la venue d'un roi qui, lors de son entrée en ce monde, la nuit de Noël, n'a eu qu'une mangeoire à bestiaux comme royal berceau. Voilà donc Jean-Baptiste arrivant dans le désert de Judée et commençant à prêcher. Mais là encore, la proclamation de la venue du Messie aurait pu se faire plus agréable pour les oreilles des Juifs et pour les nôtres aussi d'ailleurs. Les paroles du prophète semblent décidément en adéquation parfaite avec son look. Mais il me semble tout de même que notre ami aurait pu faire un effort d'adaptation. Il aurait pu, par exemple, rappeler les grandes promesses associées à la venue du Messie, qu'il apporterait la justice, la guérison, la stabilité. En fait, il aurait pu commencer par les bonnes nouvelles. Il va choisir une voie toute différente. Changer, car le royaume de Dieu est proche. Et changer n'est jamais une bonne nouvelle pour personne. Quand on dit à quelqu'un « tu dois changer », ça n'est jamais une bonne nouvelle. Donc par l'utilisation que fait Matthieu de la citation d'Ésaïe que nous avons lue, nous voyons que Jean reprend en fait des propos, des mots familiers et faisant autorité pour rappeler à ses auditeurs justement de préparer le chemin ou faire des sentiers droits pour le Seigneur. « J'en commence par ce qui pourrait vraiment être considéré comme la mauvaise nouvelle. Il leur dit qu'ils doivent changer. Il nous dit que nous devons changer. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ben ça va marcher. Beaucoup d'hommes et de femmes vont l'écouter, vont devenir même ses disciples. Après tout, c'est peut-être ça que le monde a besoin et envie d'entendre, hein, son besoin de changer en profondeur. Posons-nous néanmoins la question dans le contexte de l'époque pour tenter de comprendre son succès, parce qu'il en a eu. Hein. Comment cet étrange personnage, sort-il nulle part, enfin du désert, c'est la même chose, a-t-il eu tant de succès dans son ministère? Comment a-t-il fait pour être suivi par autant de disciples? Matthieu nous donne quelques indices. En effet, il nous offre une description détaillée, très précise de Jean. Et mes amis, chaque détail compte, hein, car chaque détail est porteur de sens. Son habit, tout d'abord, hein, qui, je l'ai dit, peut surprendre. En tout cas, ça nous surprend, nous. On n'aurait pas idée au XXIe siècle de se promener avec un habit de poil de chameau. Hein. Ça nous surprend donc peut-être, nous, mais pas ces auditeurs juifs qui, eux, sont en terrain de connaissance en voyant Jean habillé, accoutré de cette manière. Parce qu'un habit de poil et une ceinture de cuir, ça me rappelle quelqu'un, ça. La tenue d'Élie, du prophète Élie. Le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Les sauterelles et le miel. Les sauterelles et le miel. Le repas des pauvres. Matthieu présente Jean à la manière des prophètes d'autrefois. Il le présente comme un homme de Dieu faisant autorité et annonçant la parole de Dieu, car il en est porteur. Ça faisait 400 ans que Dieu se taisait, 400 ans que le Seigneur n'avait plus donné de prophète à son peuple. Prends ce texte de Malachie, c'est le dernier chapitre du livre de ce prophète. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. La deuxième partie de cette prophétie est reprise mot pour mot par l'ange qui annonce la naissance de Jean le Baptiste à Zacharie, son futur papa. Vous vous rappelez quand il présente les pains de proposition dans le temple de Jérusalem, parce que le papa de Zacharie est un lévite, un prêtre. Mais il ajoute quand même une petite précision qui ne se trouve pas dans la prophétie de Malachie. Et là, on va retourner dans l'évangile de Luc, verset 17, chapitre 1. C'est ce que l'ange dit à Zacharie, de Jean-Baptiste qui doit naître. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Ce n'est pas seulement le ministère de Jean d'aplanir les sentiers. Ces sentiers doivent s'aplanir dans le cœur de ceux qui entendront le message. Il marchera devant Dieu, pour lui ouvrir la voie, avec l'esprit et la puissance d'Élie. On nous dit donc qui est Jean-Baptiste, un nouvel Élie, et quelle est sa mission, préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé, un peuple avec un cœur prêt à entendre l'Évangile. C'est Élie qui doit précéder la venue du Messie, il s'agit donc de Jean-Baptiste. Et à la question des disciples, qui était Jean-Baptiste? Jésus leur dira, vous n'avez toujours pas compris. Jean-Baptiste, c'est Élie. Le peuple vient en foule vers Jean pour être baptisé parce que le petit peuple a bien compris, sans doute a discerné quelque part, qui était ce fameux Jean-Baptiste. Il semble donc que Jean ait bien joué son rôle de précurseur. Ça a marché. Le baptême, son baptême à lui, dont il est question ici, nous dit Matthieu, est une purification rituelle, symbolisant la repentance, la prise de conscience qu'il existe un Dieu et que nous, les hommes sommes pécheurs devant lui, que nous ne sommes plus des hommes selon son cœur, que nous sommes perdus, et que nous avons besoin d'être sauvés. Et que nous devons donc nous préparer à la venue de celui grâce à qui nous pourrons être lavés, purifiés, sanctifiés, pardonnés, changés. Mais il y a plus ici qu'un peu d'eau versée, la conviction de demander pardon et de repartir à zéro. Le baptême de Jean est un signe annonciateur de quelque chose de plus grand à venir. Il s'agit d'une purification plus efficace que celle du baptême de Jean, parce que cette purification-là sera permanente. Cette purification, c'est celle qu'apportera le Seigneur. Car lui viendra, non pas avec un peu d'eau, fût-elle celle du Jourdain, mais avec le Saint-Esprit et le feu. Alors les images, les métaphores employées par Jean dans la suite de ses explications sur le ministère de celui qui vient, le ministère de Jésus, nous aide à comprendre ce que signifie ce baptême d'esprit et de feu. Cette purification s'opère, en tout cas en partie, par la séparation de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Rappelez-vous, toujours en Matthieu 3, je vous relis le texte, « Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. » Et c'est comme si Jean nous disait « ça ne va pas suffire, ça va vous préparer, mais ça ne suffira pas. » Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. C'est là qu'il fait la distinction. Il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, si vous avez un peu de culture biblique, ce dont je ne doute pas, cette précision de l'aire de battage, cette histoire de blé, devrait vous faire penser au psaume 1. Pas pour rien que c'est le 1 d'ailleurs. C'est le premier du psautier. Psaume 1, verset 1 à 6. Je suis très biblique, hein, mais quelque part nous sommes là pour ça, n'est-ce pas? Heureux l'homme, c'est une béatitude. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est déjà quelqu'un apparemment qui a compris quelque chose. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Hein? Ça laisse rêveur. Hein? Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Ouais? Ils ressemblent à la paille. Ceux qui sont fermés à l'Évangile, ils ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement. Donc non. Le jugement, c'est quoi? C'est la venue de Dieu. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Alors, ce processus dont parle Jean à son auditoire est bien connu de son auditoire. D'où ça ne fait, encore une fois. On a beau habiter Braine-l'Alleud, il y a encore un peu quelques champs autour. De temps en temps, on voit un tracteur passer sur la route, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, en Belgique, on utilise encore ce système pour traiter le blé. Mais à l'époque de Jésus, où 80% des récoltes en Galilée se font de cette manière-là, les agriculteurs étaient à l'écoute de ce genre de problématiques. Ils utilisaient une peine à vanner pour jeter le grain en l'air. Ça se fait encore aujourd'hui dans certains pays qui n'ont pas de tracteurs, qui ne s'endettent pas pour des millions avec des tracteurs. Je ferme la parenthèse. Les parties lourdes et comestibles tombaient sur le sol, mais la balle, plus légère, était en principe emportée par le vent. Et la paille qui restait après cela, le fermier la séparait du reste et la brûlait. Vous voyez ? On garde certaines choses et on se sépare d'autres. Autrement dit, le baptême du Saint-Esprit nous sépare du reste des hommes afin de pouvoir leur parler de Dieu. Pas pour rien que vous avez été séparés, hein. C'est pour pouvoir mieux aller vers les autres. Il nous unit au Christ par l'Esprit et le feu de la purification. Et ce feu, c'est aussi le symbole de la présence de Dieu, hein. Rappelez-vous Exode 3, quand Moïse tombe nez à nez avec un buisson qui brûle et ne se consume pas, ce feu, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il lui dit « Retire tes sandales, tu te trouves sur une terre sainte ». Pourquoi est-elle sainte? Parce que partout où Dieu se trouve, il sanctifie l'endroit où il se trouve. Si vous êtes sanctifié, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et cette présence vous sanctifie, vous purifie. Donc cette purification est plus durable qu'un simple nettoyage. Et je pense que c'est précisément le sens que Jean voulait donner à la chose quand il cite ce passage du psaume 1. Alors le baptême du peuple, de certains membres du peuple d'Israël par Jean, est très significatif. Il est porteur de sens, bien entendu. Mais sans l'œuvre de l'Esprit-Saint qui l'accompagne, par la suite, ses effets sont temporaires. Demander pardon à Dieu sans avoir été poussé par l'Esprit-Saint à le faire ne revient en fait qu'à être purifié temporairement, en attendant que notre conscience nous accuse à nouveau. Il faudrait dès lors se plonger dans l'eau du baptême de Jean, régulièrement, toutes les semaines, tous les jours, s'il n'y avait eu que celui-là. D'ailleurs, dans le livre des Actes, je crois que c'est Paul qui, à un moment, se retrouve né à avec des Samaritains qui croient en Jésus. Et Paul leur pose la question, « Avez-vous été baptisé ?» Il dit, « Oui, du baptême de Jean. » Et Paul dit, « Ça ne suffit pas. Vous devez être baptisé de l'Esprit. » Voilà. Et ils sont, à ce moment-là, baptisés de l'Esprit. Donc, le baptême de Jean n'a de sens que si l'on passe par après, par le baptême de l'Esprit. Parce que c'est un baptême de repentance, le baptême de Jean. Donc, le baptême de Jean, si je vais l'actualiser, il fait partie de la conversion en ce qu'il symbolise la repentance. C'est un des éléments. En ce sens, avec les pères de l'Église, nous pouvons dire que l'eau de ce baptême de l'Esprit, pour nous, est celle de nos larmes qui accompagne toute repentance véritable. Je connais très peu de gens qui sont véritablement convertis, qui n'ont pas pleuré, peut-être pas pendant des heures comme certains, mais au moins un petit peu. Les pères de l'Église disent que ce sont ces larmes-là qui sont le véritable baptême, qui confirme le baptême de l'Esprit. Donc pour changer véritablement de vie, il faut donc plus qu'un peu d'eau et la prise de conscience passagère que l'on a mal agi. Il faut l'action de l'Esprit-Saint nous convainquant que nous sommes pécheurs, que c'est un état permanent, mais que nous pouvons en être pardonnés définitivement. Parce que l'homme, ça je ne vous apprends rien je suppose, n'est pas pécheur de temps en temps. C'est notre état perpétuel et dès lors, quelqu'un d'autre doit prendre en charge ce problème. Quelqu'un qui n'a jamais péché et dont l'Esprit doit investir notre cœur, notre vie, afin de faire de nous des saints à qui il arrive encore, parfois, de pécher. La règle doit devenir, l'Esprit Saint aidant, l'exception. C'est uniquement le Saint-Esprit qui peut appliquer à nos âmes la justice que le Christ a acquise pour nous par sa mort à la croix et sa résurrection. Avec le seul baptême de Jean, ceux et celles qui s'y sont plongés devront être lavés à nouveau. En revanche, l'œuvre de Jésus par l'Esprit est efficace pour toujours, pour l'éternité. De là un baptême unique, je parle du baptême d'eau, là, qui ne transmet pas le salut, hein, comme certains pensent et le disent encore, mais représente la mort de celui qui s'y plonge, parce que vous êtes mort, hein, avec le Christ. Et sa participation à la vie nouvelle par la résurrection de son Seigneur Jésus lorsqu'il est ressorti de l'eau. C'est pour ça que les bons pasteurs ressortent les baptisés de l'eau. Autrement, on les laisserait dans l'eau. Parfois, on est tenté, mais on ne le fait pas parce que ce n'est pas bien. Donc, la symbolique est très puissante, me semble-t-il. Et ce baptême-là, pas besoin de le reproduire. Certains pensent même que le baptême de Jean le Baptiste, équivalait à celui qui administrait les Juifs lorsqu'un païen demandait à devenir juif. Il y avait les Juifs baptisés aussi à l'époque. Ils baptisaient des prosélytes, donc des gens, des païens qui voulaient devenir juifs. Ils se faisaient circoncire, on les plongeait dans l'eau, et là, symboliquement, ils abandonnaient toutes les mauvaises choses qu'ils avaient commises quand ils étaient païens. Et il renonça à ces choses pour devenir juif. Quelque part, s'il y avait eu que le baptême de Jean ou le baptême des Juifs, le salut se serait trouvé dans le judaïsme. Et ce n'est pas le cas. Tant bien d'accord. Hein. Alors si les spécialistes de la Bible qui défendent cette approche ont raison, cela signifie que les Juifs du temps de Jésus, tout en se prévalant d'être le peuple de Dieu, le peuple proche de Dieu, étaient considérés par Dieu comme un peuple païen et qu'ils avaient, tout comme les non-juifs, besoin qu'on leur parle du vrai Dieu. Qui n'étaient pas plus proches du Dieu d'Israël que ceux qui n'en avaient jamais entendu parler. C'est fort, hein ? Mais je pense que ça doit être juste. Alors reste ce mystère, à jamais enfoui pour moi. Enfin, je dis que c'est enfoui pour moi parce que je vais vous dire certaines choses qui, je pense, bibliquement, sont tout à fait justes par rapport à cette question. Et je vais vous dire la question, mais je dis que c'est enfoui en moi parce que je pense qu'il y a encore plus que ce que je vais vous dire. Matthieu 11, versets 7 à 11. Ce mystère, c'est pourquoi Jean le Baptiste est-il le plus grand tout en étant le plus petit ? C'est ce que Jésus dit, on va le voir. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Mais qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir un homme habillé de tenue élégante ? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Donc, par cette phrase, Jésus valide le ministère de Jean. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, » je pense que c'est le cas de tout le monde, hein, okay, « il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. » C'est le plus grand. « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors là, l'Évangile ne parle pas d'une question éventuelle des disciples quand ils sont dans l'intimité avec Jésus, parce qu'ils n'ont pas osé, à mon avis. Vous avez compris ? Oui. Ils n'ont rien compris du tout. Hein. Ils sont comme nous, quoi. Il est le plus grand, mais en fait, il est le plus petit. D'accord. Alors, voilà ce qu'on peut dire, je pense, déjà, avec certitude. Jean est le plus grand par son courage et sa fidélité, car il n'était justement pas un roseau agité par le vent. Vous savez, les roseaux, ça bordait les rives du Jourdain. Et le Jourdain est passé aussi à un moment dans les zones désertiques. Donc Jean connaissait bien ces roseaux. Et les roseaux, quand il y a du vent, ça plie, ça fait un peu la girouette. Ouais. Ça tourne, le vent souffle du sud, et ben ça plie dans l'autre. Voilà, ça plie, les roseaux. Ça se donne, ça se laisse aller. Il n'était pas un homme dans le vent, se pliant aux caprices de ses interlocuteurs, à la mode du temps, courtisant et recherchant les bonnes grâces des puissants, c'est-à-dire un homme inconstant, faible, flatteur. C'était un prophète inflexible et fidèle à sa mission, il en est même mort, comme la grande majorité des prophètes d'ailleurs. Il est le plus grand par son austérité, contrairement, nous dit Jésus, à ceux qui habitent les maisons des rois, le confort des maisons royales, qui sont revêtues d'habits précieux. Il habitait le désert, la terre aride, le lieu d'essentialité où ne survivent que ceux que Dieu a appelés à la rencontre. Ce sont les seuls qui survivent dans le désert, ceux qui y sont appelés par Dieu. Il est le plus grand par sa position de précurseur annoncée par le prophète Malachie. Jean-Baptiste est en fait très grand, car il est sur le seuil du royaume de Dieu. Il annonce la venue du royaume en la personne de son roi, Jésus. Il est plus grand que ses prédécesseurs qui n'ont salué le roi et le règne à venir que de loin, alors que lui a vu le Messie et a pu le désigner à ses disciples. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a pu le montrer du doigt, le Messie. C'est pour ça qu'il est le plus grand. Et je me sens tellement petit face à Jean-Baptiste. Et pourtant, il est plus petit que moi. me dit Jésus. Plus petit que vous. Plus petit que le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais comment est-ce que c'est possible, ça? Eh bien, c'est l'apôtre Jean, un autre Jean, qui nous offre la réponse. Dans le chapitre 1er, dans le prolégomène de Jean. Ça veut dire introduction, hein. Ça fait peur, hein, tout de suite. Hein. Théologiens inventent des mots pour se rendre intelligent. Hein. Et les pasteurs suivent. Bah. Fallait que je le place. Hein. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, parle de la lumière qui vient dans le monde, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou le droit, selon cette traduction-là, de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. La réponse est là, en fait. La réponse de notre grandeur est là. Tous ceux qui font partie du royaume de Dieu sont nés non par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir sexuel, ce qui est souvent le cas. Hein. Nous ne sommes parfois que ça au départ, le résultat d'une pulsion, je suis désolé de vous le dire si vous ne le saviez pas. Ou encore par la volonté des parents qui ont pris la décision de nous avoir. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés, nous dit Jean. Je pense qu'on ne comprend pas la profondeur de cette parole. C'est Dieu qui a décidé de votre naissance. Et personne d'autre. Ce ne sont pas vos parents. Car il fallait que vous naissiez d'en haut de l'Esprit-Saint. Il fallait que vous veniez au monde pour que Dieu puisse faire de vous ses enfants. Ce ne sont donc pas vos parents qui ont décidé de votre naissance. C'est Dieu qui en a décidé. Vous vous rendez compte de ça? Je ne sais pas. Hein, c'est... Nous sommes ses fils et ses filles, nés de sa volonté, avant même d'être les enfants de nos parents, nous étions déjà les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du saint désir de l'amour de Dieu, parce que lui nous a vraiment désirés. Nous sommes les enfants d'un amour éternel. Alors ça, si ça ne vous fait pas tomber de votre chaise, moi je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. En tout cas, ça m'a fait tomber de la mienne. Il y a donc, et il faut le comprendre, une nette distinction entre l'ère avant le Christ et celle inaugurée par lui. Jean-Baptiste faisait partie des prophètes qui attendaient et annonçaient la venue du Messie. Il appartenait encore à l'ancienne alliance. Il n'était que l'ami de l'époux. C'est comme ça que Jésus l'appelle. Jean-Baptiste est l'ami de l'époux. Celui qui se réjouit de l'arrivée de l'époux, du mari. Il n'a pas pris part à cette nouvelle ère marquée par la crucifixion, la résurrection de Christ et la venue du Saint-Esprit. Il n'y était pas. Il n'y était plus. En ce sens, il n'a pas bénéficié des privilèges et des bénédictions de la nouvelle alliance. Et il est donc plus petit que ceux qui en font partie, qui sont intégrés au corps de Christ et qui constituent l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Jean n'est que l'ami du mari. Il n'est pas l'épouse. Et j'espère, messieurs, vous avez compris que normalement, on aime sa femme plus que ses amis. Vous me suivez? Donc, en cette période de l'Avent, il nous est demandé de nous préparer, nous aussi, à une venue. La venue d'un petit enfant dans une crèche. Émerveille-toi, peuple de Dieu. Cet enfant est, oui, ton Seigneur. Et il est venu pour toi. Mais pour que la nuit de Noël devienne lumière pour toi, il faudra que tu fasses de la place dans ton cœur pour l'accueillir. J'oubliais. Il ne faut pas t'en faire si tu n'as rien. Si tu n'es rien, comme notre pauvre veuve de tout à l'heure, il n'a besoin que d'un petit peu de paille pour être bien. Et ça, je pense que même ton cœur à toi peut le lui fournir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.